Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Mes chers frères, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous permet ce soir d'avancer dans le tafsir de la sourate Al-Qiyam. La semaine dernière, on a vu une situation qu'Allah Azza wa Jal nous a révélée et qui permet aux personnes qui ne croient pas en l'au-delà ou qui ne croient pas suffisamment en l'au-delà de réaliser que viendra un jour où nous serons présentés à Allah et certaines personnes auront le visage illuminé. C'est le tafsir de la dernière fois, parce que leur parcours sur cette terre aura été agréé par Allah Azza wa Jal, et quand ils se présentent devant Allah, c'est pour recevoir leur récompense. Et donc on a également développé la dernière fois plus ou moins les magnifiques hadiths concernant la vision d'Allah dans le paradis et les différents degrés hein, de Ahlul Jannah. Ça c'était le targhib. Maintenant, dans la révélation après le targhib, il y a le targhib, la mise en garde. La mise en garde, c'est le verset que nous venons de lire dans la traduction, et il y aura ce jour-là des visages assombris, Rasulullah al-Afiyah, qui s'attendent à subir une catastrophe. Ibn Kathir rahimahullah yaqulu fi tafsirihi hadhihi wujuhul fujjar. Ce visage assombri, c'est le visage de ceux qui ont tourné le dos à Allah, qui n'ont pas cru en Allah, qui n'ont pas obéi à Allah et qui ont mené leur vie comme bon leur semblait, en suivant leur naps, leurs envies, leurs passions, en suivant ce que la société leur demandait de faire. L'exemple, hein, on suit les influenceurs, je cherche le mot, on suit le mouvement et tout ce qui est attachement à la religion, aux principes, la salat, le respect des parents, la pudeur, les valeurs que le prophète alayhi salat wa sallam nous enseignait. Malheureusement, les personnes, ils mettent tout ça de côté. Et les conséquences, c'est que le jour de Qiyamah, des visages assombris. Et tadhunnu an yuf'ala biha faqira, qui s'attendent à subir une catastrophe. Non, Hudhayfa n'est pas là ce soir. Tadhunnu, dhanna yadhunnu, qui veut dire, en noir, penser. Mais là, le verbe penser, bima'na, yuqinu, la conviction. Ces personnes qui sont ressuscitées dans cette situation avec le visage assombri, et à chaque fois qu'on dit ça, on doit demander à Allah protection, protection. Allahumma jirna minan nar, et Allah nous protège de ce genre de situation. Ces gens, quand ils sont ressuscités, ils savent an yufa'ala biha faqira, la traduction, s'attendent à subir une catastrophe. Ils savent déjà qu'ils sont condamnés. Ils savent qu'ils sont condamnés. Pourquoi? Entre autres, comment ils sont morts? La façon de mourir. La façon de mourir. Nour, comment aimerais mourir un jour? Ton rêve. Si les gens qui n'ont pas iman écoutent cette conversation, ils disent que, en général, quand on dit ton rêve, c'est qu'est-ce que tu aimerais avoir un jour, gagner. Mais comment tu rêves de mourir? Mais ils sont bizarres, ces musulmans. C'est quoi ton... Comment tu souhaiterais mourir? Bonne question que Sanaullah va nous répondre. Prévoyez. Alors, en Sijida, on continue. À Mecca, en état d'Ihram. Ici, du 5 étoiles. Là. Mashallah, mashallah. Alors, c'est magnifique. Ma question, Thanaoula, est-ce que tu fais doua pour ça? C'est ce qu'il faut. Et Allah accepte. Ikhwani fillah, demandez à Allah toujours dans nos doua, husnul khatima. Et pour demander husnul khatima, il n'y a pas besoin d'avoir la barbe blanche comme toi, Mohamed, ni comme un noir, jeune retraité. Quel que soit notre âge, quel que soit notre âge, demandons à Allah husnul khatima. J'expliquais ça aux élèves à la madrasa récemment. Il y avait une question concernant, je ne sais plus comment on est arrivé à là, et j'ai expliqué le principe de husnul khatima. Beaucoup de gens, quand on parle Husnul Khatima, tout le monde connaît l'expression, une mort noble, d'accord. Beaucoup de gens disent Husnul Khatima, c'est mourir dans le mois de Ramadan. Ma yakfi. C'est-à-dire, il faut comprendre, hein, c'est que les périodes de l'année, ça fait partie de l'organisation du temps de notre Seigneur Azza wa Jal. Il n'a jamais été dit que dans le mois de Ramadan, c'est uniquement les muttaqis, les pieux qui meurent. Tout le monde meurt. Autrement, imaginez que le taux de mortalité s'arrêtait net, arrivait à zéro dans le mois de Ramadan, il n'y avait que des musulmans pieux qui mouraient. Khala, ça aurait été un signe évident pour l'humanité. D'accord ? Donc, ce n'est pas suffisant. Et à nous aussi de faire attention de ne pas trop parler. On aime trop commenter la mort des gens. Il y a des gens qui commentent la mort quand même. Ça, c'est Jannat direct. Ça, c'est Yabn al-Halal. Qui t'a dit ? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire Hada fil Jannah ou Hada na'oud billah. On ne peut pas. Donc, Husnul Khatima, on a toujours compris que c'est mourir dans le mois de Ramadan. Husnul, si on meurt en plus dans le mois de Ramadan, Mashallah, khair wa ni'ma. Le Husnul Khatima, c'est mourir alors qu'Allah est satisfait de toi. C'est mourir alors que tu es dans une spirale positive de spiritualité où tu es à la recherche du contentement d'Allah Azza wa Jal. Husnul Khatima, c'est mourir alors que tu demandes régulièrement Tawba Allah. Et que certainement tes péchés sont pardonnés tout le temps, au quotidien, régulièrement. Husnul Khatima, c'est mourir et que, si tes parents sont toujours de ce monde, qu'ils soient satisfaits de toi. Et s'ils ne sont plus de ce monde, c'est qu'avant leur mort, ils étaient satisfaits de toi. J'ai un souvenir du papa de Nour, comme si c'était hier. Qu'Allah illumine sa tombe à l'instant et lui accorde les récompenses des bonnes actions de son fils. Vous savez que parmi les actions qui sont profitables aux défunts, waladun salihun yad'oula, un enfant pieux qui fait de bonnes actions, qui vit de l'obéissance d'Allah et qui fait doua pour toi. De nos jours, notre objectif, moi je veux que mon fils soit médecin, chirurgien, ingénieur. C'est bien, mashallah, alhamdulillah. Maintenant, imagine qu'il arrive grand médecin, travaille dans l'hôpital Apollo. Voilà, il travaille dans des grands hôpitaux. Excusez-moi une parenthèse, hein, une fois j'étais à Maurice, je passais près de Apollo. Quelqu'un m'a dit voilà, ça c'est. Je croyais que c'était l'usine de mine Apollo. Et la personne était vexée, hein, c'était un Mauricien. Elle a dit non, et bâtiment comme ça, Bayo, ça c'est l'hôpital, c'est le fleuron des hôpitaux de l'île Maurice. Pareil que financièrement, il faut être costaud. Enfin bref, je refais la parenthèse. Parmi les actions qui sont profitables aux défunts, oui, alors. Des fois, on a envie que notre enfant devienne grand médecin, grand ingénieur. C'est une bonne chose. Mais imagine que voilà, il est devenu un grand chirurgien, il est chef de cardiologie, de pneumologie, de je ne sais pas quoi. Mais il passe tout son temps dans l'hôpital. Alhamdulillah, ça profite aux gens, et ainsi de suite. Mais il n'a même pas le temps de faire ses salats, ses a'mal, il ne fait pas doua, il ne pense pas à ses parents, il ne va pas sur votre tombe. C'est-à-dire qu'il faut un juste milieu. La carrière professionnelle, la réussite scolaire et ensuite professionnelle de notre enfant, c'est le rêve de tous parents. Mais l'objectif principal, c'est que ces enfants-là, ils grandissent de l'obéissance d'Allah. Regarde ces trois jeunes qui sont en train de faire leur salat. Ça, c'est la fraîcheur des yeux. La fraîcheur des yeux. Ils auraient pu être devant leur PlayStation, leur PS5 ou leur, je sais pas, autre chose, ou en train de regarder la télé et tout. Comme beaucoup d'enfants de leur âge. Mais non, ils sont à la masjid à 20h50, sont en train de prier. Alhamdulillah, khair wa ni'ma. Aham shay, c'est que tes enfants grandissent de l'obéissance d'Allah. C'est que tes enfants grandissent avec conscience qu'il faut rester éloigné de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. C'est pas que tes enfants, ils grandissent, ils font leur salat et tout pour te faire plaisir. Ou parce que papa y veille, il surveille ou maman, il... Non. Parce qu'un jour, il ira ailleurs. Il ira à Paris, il ira à je sais pas quel endroit, il va continuer ses études. Et on n'aura pas toujours un regard sur lui. Et là, s'il a eu de bonnes bases spirituelles, il va continuer ce salat. Il n'y aura même pas besoin de lui demander « Mon garçon, on l'a fait Fajr aujourd'hui, on l'a fait Zohar, ma yahtaj. » Murabba. Il a été éduqué, alhamdulillah, il est « ala surat al-mustaqim ». Qu'Allah nous accorde cet honneur d'avoir nos enfants sur le droit chemin. Allahumma amin. Et oui, on était en train d'expliquer c'est quoi Husnul Khatima, c'est mourir. Allez, on revient également que si tes parents, voilà, on a retrouvé, barakallahu fikoum, si tes parents étaient déjà morts, ils sont déjà morts, mais qu'avant leur décès, mais ils étaient contents, ils étaient satisfaits de toi. Husnul Khatima, c'est également mourir alors que tu ne dois de l'argent à personne, tu ne sois pas endetté. et que tous ceux qui ont des dettes, qu'Allah Rabbul Izza nous permet de nous acquitter de nos dettes. Husnul Khatima, c'est également mourir alors que personne n'a l'occasion ou n'a une quelconque raison de te pointer du doigt. Lui, il a fait ça, lui, hein. Lui, il m'a fait ça, lui, il a été injuste, il a été malhonnête, il m'a dit ça, il a... Abadan, tout ça, Shumuliyya, c'est tout ça, ça s'appelle Husnul Khatima, qu'Allah nous l'accorde. Naam. Et donc, on revient au verset. Donc, le jour de Qiyama, ces personnes, oui, ils savent déjà, parce que comment ils sont morts, comment l'ange de la mort a repris leur âme. En fait, là, l'ange de la mort, il y a deux façons de le voir, il n'y a pas trois façons. Soit, Allah nous protège, le cas où on a échoué notre vie sur ce dunya, c'est une vision qui est catastrophique et effrayante. Et si on a réussi notre passage sur ce dunya, c'est quelque chose qui est tellement beau. Le hadith stipule que la simple vision de l'ange de la mort pour un croyant, c'est suffisant comme récompense pour sa vie. C'est suffisant comme récompense pour sa vie de bonnes actions. L'ange de la mort pour le mu'min, le muttaqi, est précédé d'un cortège de combien de malaïka? 500. Qui viennent et qui t'annoncent la bonne nouvelle, qu'Allah est satisfait de toi. Et l'ange de la mort ensuite prend ton âme avec précaution, ce qui ne veut pas dire que ça sort facilement. Les douleurs de sakaratul maut, ça c'est haq. Et ton âme monte au ciel et est acceptée par Allah Azza wa Jal. Naam. Et donc la personne qui meurt avec su'ul khatima, il sait déjà que, il a vu déjà que son, que sa vie n'avait pas de sens. Et que tout ce en quoi il croyait, khalas, sa fortune, ses amis, sa notoriété, tout ça c'est fini, il n'y a rien. Il est mort et il vit des choses qu'il n'imaginait pas, des choses auxquelles il ne croyait pas, ou il croyait mais pour lesquelles il n'a fait aucun effort, il n'a pas préparé. Naam. Ah non. Et donc ces personnes, le jour de Qiyam, il y a le verset également, Yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, c'est soit des visages qui sont illuminés, soit des visages qui sont noircis et assombris. Et en commentaire, nous disons également, par rapport à ce verset, on conclut ce passage, que dans ce dunya, il nous est difficile de réaliser certaines choses. Prendre conscience des questions des anges dans la tombe, prendre conscience que le jour de Qiyam, je serai ressuscité, ça va se passer comme ci, comme ça, et que je vais devoir, je vais être présenté devant mon Seigneur Azza wa Jal pour rendre compte de mes actions. Quand on est dans le mouvement, hein, quand on est dans le tourbillon du dunya, avec les occupations, le travail, les engagements professionnels et tout, on a parfois du mal à sortir la tête de l'eau. On est tellement plongé dans ce dunya, c'est ça qu'il faut. La solution, hein, c'est le fameux doua ihdinas sirat al-mustaqim. Qu'on est déjà dans le droit chemin en tant que musulman, mais de demander à Allah de nous donner encore plus de guider pour pas que nous nous laissions rattraper et submerger par ce dunya et ses réalités et ses difficultés. Parce que ce dunya, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Naam, hada. On continue. Donc là, c'était la deuxième catégorie de personnes ressuscitées le jour de Qiyama et qui a le visage assombri et qui sait à l'instant où il est ressuscité que ce sont des situations difficiles qu'il attend qu'Allah nous protège. Naam. Je vous pose une question. Pour le croyant, quelle est la première bonne nouvelle pour le croyant lorsqu'il est ressuscité? Alors, je reformule la question. La première question qui sera exposée donc aux croyants le jour de Qiyama, c'est à propos d'une action particulière. Si cette question ou cette thématique, il a réussi, c'est que des bonnes nouvelles pour lui. Ça veut dire que toutes les étapes qui vont venir après, que ce soit la pesée des actions, le sirat, il sait que tout le reste va être facile. Quelle est cette action? Alors, cela, Allah ybarik fikum. Le prophète alayhi salat wa salam nous a enseigné awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salat. La première chose à propos de laquelle chaque croyant sera questionné, interrogé le jour de Qiyama, ce sont ses salats. Et si la question salat est réussie, toutes les étapes de l'au-delà seront faciles. Et si dès le départ, ça bloque, ça coince, il y a des manquements dans la salah, les autres étapes vont être difficulté sur difficulté. Hada. Non. Ensuite, on passe à une autre thématique. Allah donne deux exemples. Allah Rabbul Izzah donne deux exemples. Je reprends ce qu'on a dit en introduction pour les personnes qui ne croient pas en l'au-delà, mais également pour ceux qui ne se préparent pas à l'au-delà. Attention au moment où vous serez présenté devant Allah. Choisissez. Est-ce que vous voulez être celui qui va voir Allah et qui va briller par la lumière de cette situation, ou Allah protège, vous voulez être cette personne qui aura le visage assombri, qui est conduit vers un châtiment. Donc, c'est une des situations qu'Allah nous révèle et pour lesquelles Allah nous demande de réfléchir, de s'y préparer. La deuxième situation, j'ai pas lu le verset, il me semble. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Kalla idha balagati at-taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saqu bis-saqi ila rabbika yawma idhin al-masaq. On avait lu. C'était fala saddaqa wa la sallaq, on n'avait pas lu. Je lis la traduction. Mais non, quand l'âme en arrive au clavicule et qu'on dit qui est exorciseur et qu'il, en parlant de la personne qui est en train de mourir, est convaincu que c'est la séparation, c'est la mort, et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est une métaphore qui est mal traduite, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Alors, la traduction est un peu complexe, hein, d'accord ? Ces versets, on en a à peu près 5, parlent de sakaratul maut, l'agonie. Tout le monde sait c'est quoi l'agonie. L'agonie, c'est quelque chose qui est en lien avec ce que nous voyons et qui peut être prouvé médicalement d'une certaine façon. Mais l'agonie, il y a une part également qui est en lien avec le rêve, avec l'invisible. Alors bien sûr, les médecins vont reconnaître que le cœur est en souffrance, le rythme cardiaque est en train de baisser, la tension artérielle descend, les organes ne répondent plus, tout ça. Donc c'est des signes que la personne est en train de mourir. Et c'est là qu'on appelle la famille. Venez, et voilà. Et que si la personne était branchée, on le débranche. Et on a tous vécu, hein, Allah protège. Allah seul, c'est comment se déroulent ces situations. On a peut-être déjà eu dans la famille quelqu'un qui est en train de mourir sur un lit d'hôpital et tout le monde est autour. C'est des situations difficiles, des situations dramatiques, compliquées. Naam. Après, il y a le côté qui appartient au raïb. C'est le ruh qui quitte le corps. Et le concept même, la définition même du ruh, l'âme, c'est quelque chose qui n'entre pas du tout dans le cadre médical ou scientifique. C'est quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement. Enfin, c'est pas que ce n'est pas prouvé scientifiquement, c'est que l'être humain ne peut pas comprendre. Je veux la réponse. Hein. On a des hafesab qui sont prêts pour ta ravi. Continuez. Non. C'est quelque chose qui appartient, cette connaissance, c'est Allah seul qui l'a, le sens global du verset, c'est Allah seul qui a connaissance de l'âme. Naam. Parce que le ruh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Quand il sort du corps, la personne meurt, et le jour de Qiyamah, il n'y a plus de corps, le corps est désintégré, décomposé. Allah redonne vie au corps, les tissus, la peau, les os, la chair, le corps, le côté physique reprend, se reconstitue, et là Allah fait retourner l'âme dans le corps et la personne vit. C'est la résurrection, c'est une étape de l'au-delà. Donc ce côté-là, humainement, une approche purement scientifique, c'est pas possible. Mais il y a autre chose. Quand on parle de l'agonie, même en termes de définition, quand on voit quelqu'un sur un lit d'hôpital et tout, en train de souffrir, en train de mourir, Allah, j'en ai connu des gens, j'en ai vu, j'en ai assisté, moi, des gens qui me disent, Ya Allah, ah, Ya Rabbi, je me souviens d'une dame qui était d'une gentillesse de ce dunya, mais d'une bonté, Allah, et elle est décédée d'un cancer, et son mari et son frère m'avaient appelé, c'est pas quelqu'un de ma famille, hein, mais voilà, par Mohabba, ils m'ont appelé de venir voir, c'était à l'hôpital, et c'est choquant quand on a connu quelqu'un en bonne santé, qui travaillait, une femme active qui était, mashallah, et avec le cancer, elle était toute amaigrie. Et moi, ce que je retiens, c'est la recherche d'oxygène, le souffle. Personne n'était comme ça, la bouche grande ouverte. On sentait que, voilà, qu'elle essayait de respirer, ça fonctionnait plus dedans. Et c'est combien de temps ça peut durer? Ya Allah! Ça peut durer 10 minutes, ça peut durer des jours et des jours. Où la personne lutte pour avoir un peu d'oxygène, pour essayer de. La ilaha illallah. Le shafa, qu'Allah nous accorde husnul khatima et une mort sans souffrance. C'est ça, c'est ce que je voulais demander à Thanaullah et à Nour. Et bon, j'ai une partie de la réponse. Après, des fois, on peut demander doigt pour mourir d'une façon, mais Allah, c'est lui qui prend les décisions. Nous, on aimerait mourir comme Thanaullah a dit dans la salah, et d'un coup, c'est tchouk, ça part, mashallah, mashallah, mashallah. C'est comme sur une nouvelle route du littoral, là, ça part, ça décolle, ça va vite. On aimerait, mais des fois, Allah décrète que son serviteur a besoin d'être purifié. Parce que s'il retourne devant Allah comme ça, c'est très mauvais pour lui. Parce que depuis l'âge de 15 ans, de 16 ans, il y a eu des péchés cumulés, des péchés pour lesquels ce serviteur n'a pas demandé tauba ou n'a pas pu demander tauba tunna nasuha, repentir sincère. Ça peut être des erreurs de jeunesse. La personne a 50 ans, 60 ans, mais dans sa jeunesse, la personne faisait, voilà quoi, Allah musta'an, des erreurs, beaucoup de zina, beaucoup de péchés de ce genre, relations avec des filles. Et que ensuite la personne a passé un cap, s'est marié, a fait sa vie de famille, mais il n'a jamais vraiment regretté ces moments-là. Il n'a jamais vraiment demandé tauba. Ça reste dans le livret de compte. Et donc, nous on demande une mort comme ça, mashallah, tout ce qu'on souhaite. Mais parfois, Allah dans sa clémence, c'est pas notre Seigneur qui punit, c'est pas un Dieu qui sévit, non. Dans sa clémence, décide que cette personne, si elle retourne auprès de notre Seigneur comme ça, c'est très mauvais pour son hisab, ses comptes. Et Allah décide que la personne tombe malade et que la personne souffre un mois, deux mois, hospitalisée, des difficultés, maladie. Et qu'au bout d'un certain moment, la personne meurt. Mais qu'avant de mourir, tout le monde peut être témoin. Quand quelqu'un meurt après une longue maladie, on dit que. Qu'est-ce qu'on dit en général? Bien fait, Allah la reprend en lui. Allah, il connaît son travail. Bien, mais Allah, il connaît son travail. Allah, il connaît quand il fallait le reprendre. C'était à cet instant. Parce que jusqu'à 10 minutes avant, il y avait encore des gounans. Il y avait encore peut-être des. Et je ne porte de jugement sur personne, astaghfirullah. Je ne veux dire que tous ceux qui sont à l'hôpital, c'est des pécheurs. Na'oud billah, jamais. Hein. Je veux dire que dans la hikmah d'Allah, dans les épreuves, c'est ça. Donc nous, on aimerait mourir de telle façon. On aimerait tous mourir d'une certaine façon. Et je nous encourage à faire du'a, à demander Allah husnul khatima et à ne pas hésiter à donner des détails quand on fait du'a et on montre à Allah la confiance qu'on a dans cet échange de manière à Allah accorde-moi un jour à la mort alors que je suis en état d'ihram auprès de la Kaaba et ainsi de suite. Mashallah, demandez. Et plus on demandera ça, le cœur s'imprégnera de cette réalité. On réalisera que vraiment la mort c'est pas quelque chose, c'est pas une histoire, c'est pas réservé aux autres, c'est quelque chose que je demande au quotidien, une façon de mourir. Donc la mort doit faire partie de chacune de mes journées et elle doit être présente dans chacune de mes invocations. Avant aussi mon souhait c'était comme Thanaullah, pas avant mais mourir selon le doua de Omar ibn al-Khattab, Allahumma arzuqni shahadata fi sabilik wa amitni fi baladi rasulik, mourir à Madina, mourir à Mecca. Après, avec un peu plus de... On avance. De sagesse, on va dire. Des fois, je me dis que mourir juste en faisant le tafsir, ce serait Allahu Akbar wa illahi alham. C'est mon souhait. Il faut y penser. Je dis ça de façon un peu... avec un peu de légèreté, mais c'est pas quelque chose de simple. La mort, c'est effrayant. Je pense qu'on a tous vécu ça. Parfois, il arrive que vous avez une petite douleur au niveau du cœur. Je dis, ben tout le laïc, ça n'a pas don. Attends, peut-être c'est un point de côté. Prends le téléphone, mais fais le 15, fais pas le 15. Donc, ça nous est tous déjà arrivé, je pense. Moi-même, ça m'est arrivé. Wallahi, je vous le dis en confidence, ça m'est arrivé devant la Kaaba. À Mecca. Sur le mataf, wallahi l'azim. douleur terrible au niveau du cœur. Et là, tu te rends compte que la mort, c'est effrayant. J'ai demandé à Allah de ne pas mourir maintenant. Alors que tu y es, quand la réunion fait le coq, Amma est mort devant Kaaba en Ihram. Mais quand tu sens qu'il y a un problème, c'est le côté humain qui revient. L'homme est attaché à la vie. Ça fait peur. Ça fait peur. Après, peut-être que certains, je ne doute pas de Sana'ullah, qui ont un niveau de spiritualité qui est tel que être prêt à retourner vers Allah n'importe quel moment. Qu'Allah nous accorde cette qualité. C'est une qualité des muttaqis. Donc, ikhwan ya khawati fillah, la mort, c'est pas quelque chose de simple. Il faut s'imprégner de ça au quotidien. Il faut y penser. Ça me dit que le croyant intelligent, l'homme intelligent, l'homme qui a la clairvoyance, celui qui travaille, qui œuvre pour la vie après la mort, qui en permanence, chaque jour, il pense à son retour vers Allah, Azza wa Jal. Naam. On est à 27 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Parce que la thématique sur Sakaratul Maut, c'est long. Mais oui, il y avait quelque chose, voilà, je savais qu'il manquait une pièce du puzzle. Quand on disait qu'il y a une partie de l'agonie qui n'est pas compris, qui n'est pas forcément compris par les scientifiques et même par nous. Quand on voit quelqu'un mourir sur le lit d'hôpital, on voit la souffrance, l'agonie. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui a une mort subite? Un arrêt cardiaque qui tombe tout de suite, qui meurt. Ou alors qu'Allah nous protège un accident de voiture, un impact, et que la personne meurt tout de suite. On peut parfois penser que là-dedans, il n'y a pas eu de souffrance. C'était en une fraction de seconde. Non. Même si il n'y a pas l'espace-temps qui nous est compréhensible, il y a un sakaratul maut, il y a l'agonie. Même si à nos yeux, la personne est morte en une fraction de seconde, d'accord, il y a un sakaratul maut et il y a un laps de temps. En fait, le temps se décroche complètement de nos réalités, de ce que nous pouvons comprendre, d'accord. Et donc la personne souffre, la personne voit le cortège des malaïkas, même si c'est en une fraction de seconde, tout ça a lieu. Mais c'est déjà dans un monde qui ne nous est pas accessible. C'est déjà dans le monde de l'invisible. Non. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va développer ces versets concernant Sakaratul Maut. Et je pense qu'on pourra compléter, Inch'Allah, le tafsir de la Sourate Al-Qiyamah vendredi prochain. Qu'Allah, Rabbul Izzah, dans sa clémence, accepte cette assemblée, nous permet de comprendre ces paroles et que ces réalités pénètrent nos cœurs et qu'en sortant, nous devenons de meilleures personnes. Faisons le niya. L'intention ferme et sincère de jeûner ce lundi, de jeûner le jeudi qui vient, et pour la semaine d'ensuite, de jeûner le 13, le 14 et le 15 du mois de Sha'ban. Pourquoi 13, 14, 15? Parce que ce sont les jours blancs. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, toute l'année, en dehors de Ramadan, bien sûr, où il jeûnait le mois en entier, toute l'année, le prophète, alayhi salatu wassalam, jeûnait le 13, le 14 et le 15 du mois. Donc faisons ce niya, et en faisant cette intention, on a l'intention globale de faire comme le prophète alayhi salat wa sallam qui jeûnait beaucoup durant le mois de Sha'ban. Donc faisons ce niya, faisons du'a, qu'Allah nous accepte pour ça et qu'Allah nous permet de profiter de ce mois de Sha'ban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.